Bonjour à tous. Dans la deuxième partie de la Grande Table, l'énergie est-elle une marchandise comme une autre? On en parlera avec notre invité Aurélien Bernier, spécialiste des politiques environnementales. Il est l'auteur des voleurs d'énergie, accaparement et privatisation de l'électricité, du gaz, du pétrole. Un essai qui est paru chez Utopia à la rentrée dernière. Alors que la loi Pacte est en cours d'adoption, nous reviendrons donc sur les enjeux actuels sur le marché de l'énergie. Mais d'abord, Rock El Kasbah, du rock et du rail. C'était la recette Taha. Le 23 à Aubervilliers, le festival Banlieue Bleue réunira ses complices du kebab Aloula et du couscous clan, des guitaristes Rodolphe Burger, notre premier invité, et Maxime Delpierre, au mandolutiste Hakim Amadouche, notre deuxième invité, pour un concert hommage to Rachida with Love. L'occasion aussi de rappeler ce que l'interprète de Carte de Séjour a fait au rail avec Stéphane Malfette et ce qu'il a apporté à la France.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Sincèrement, dès que tu as un maître à penser, ça veut dire que tu as un prophète. Et moi, les prophètes, ça me... Les prophètes ont fait toujours des excès. Mais je peux avoir un modèle au niveau littéraire. Jean Genet, par exemple. Voilà, ou Pasolini. Voilà, ça, c'est... Si je pouvais être à moitié Jean Genet, à moitié Pasolini, je serais une rockstar.
Prophète en son pays, la musique, humaniste, poète, militant, le 12 septembre dernier, c'est un rocker atypique, un grand qui s'en est allé à une semaine de ses 60 bougies. Rachida est né à Oran en 58. À 10 ans, il débarque en Alsace, puis les Vosges, puis la région lyonnaise. Là, à 22 ans, il forme avec les frères Amini Carte de Séjour et dégaine un rock arabophone et surtout très militant. À partir de 89, il suivra une carrière solo, Barbès, Diwan, Tekitoi, mais toujours en bonne compagnie. Rachida L'Insoumis, avec nous aujourd'hui pour en parler, le joueur de mandole Hakim Amadouche, une longue complicité avec Rachida que vous rencontrez en 91. Bonjour Hakim Amadouche.
Bonjour.
Une fidélité qui s'est construite en un jour,
bah écoutez,
comme Rome.
Disons que c'était un coup de foudre. Entre nous, c'était en 92-93 à Paris. Voilà. Donc moi, je montais de Marseille et puis j'ai rencontré... Rachid dans un petit bar à Rue de Lappe, à Bastille, et il me connaissait parce que plein de gens lui parlaient de moi, et moi je le connaissais parce que plein de gens parlaient de lui, voilà.
Du coup vous avez appris à faire connaissance,
voilà.
Sans les dire et le regard des autres,
voilà.
Mais à trouver votre propre amitié. Avec nous également le guitariste Rodolphe Burger, de l'Arabécédaire au Couscous Clan, le groupe que vous avez formé ensemble avec Rachida. Bonjour.
Bonjour.
Quelle personnalité cachait ou au contraire révélait son sourire?
Ah, le nom des groupes là qui vont jouer le révèle, quoi. C'était un blagueur supérieur. Il parlait beaucoup par blague. Donc Couscous Clan, c'était une blague. Kebab elle est là, Kebab Loula, je vais ouvrir une épicerie, je vais l'appeler l'arabe du coin, etc. Mais c'était un esprit extraordinaire. Moi, d'une culture inouïe qui s'était fabriquée lui-même. Alors il était incollable, c'était un cinéphile dingue. Il y avait un côté dessous des cartes, quoi. Il vous refaisait l'histoire. il avait une vision géopolitique incroyable. C'était un esprit libre complètement. Enfin, quelqu'un de magnifique, quoi.
Avec nous également Stéphane Malfette, responsable de la programmation culturelle du Palais de la Porte Dorée, commissaire général de l'exposition Paris-Londres, musique, migration au Palais de la Porte Dorée jusqu'au 5 janvier 2020. Ça nous laisse un peu moins d'une petite année pour aller la voir. Bonjour Stéphane Malfette.
Bonjour.
Vous le placez où dans cette planète rail, Rachida? C'était une petite comète un peu à côté.
En fait, j'ai pas envie de le placer dans cette planète rail. Lui-même disait, par exemple, pourquoi un groupe comme U2, si un groupe comme U2 était présenté comme du folklore irlandais, il y aurait quelque chose qui nous paraît très bizarre. Donc c'est vrai qu'il s'est toujours opposé à ces formes d'assignation. En même temps, il a toujours reconnu cet héritage, et d'ailleurs il l'a célébré lui-même. Mais c'est plutôt un punk sans frontières avant tout, et son lien avec Londres nous intéresse beaucoup aussi dans l'exposition notamment.
Get it, boogeyman.
Casbah ou Rock El Casbah, ce sera le mot d'ordre de la soirée concert de samedi à Aubervilliers, organisée dans le cadre du festival Banlieue Bleue. Sorti sur l'album Tequitoi en 2004, une reprise du tube des Clash, saluée à sa sortie par Mick Jones, le guitariste du groupe britannique, comme encore meilleur que la version originale. C'est une chanson au titre presque programmatique qui marque bien en tout cas ce que Rachid Taha pratiquait, la fusion tout au long de sa vie entre le rock et les musiques arabes. Rodolphe Burger, Hakim Amadouche, ça c'était aussi une marque de fabrique, en tout cas c'était un choix de sa part, une volonté de faire vivre ces deux musiques ensemble, voire plus.
Oui, absolument. Ceux qui, vraiment, c'est pas par hasard que les Anglais ont à ce point reconnu Rachid comme peut-être le seul rocker français, on pourrait dire. En tout cas, pas Johnny, quoi. Et c'est pour avoir joué ensemble à Londres avec Rachid, avoir fait lever le Barbican entier sur Rock the Casbah. Voilà, on pouvait mesurer à quel point. Je dirais la différence de perception. Rachid était mieux compris là-bas. Et moi, je peux que dire qu'enfin, j'étais pas vraiment surpris, mais quand même très choqué au moment de sa mort, de la façon dont du peu finalement de reconnaissance, en tout cas officielle. Bah, je parle pas des fans évidemment, des nombreux, très nombreux fans qui suivaient son travail, qui le connaissaient, mais. À ma connaissance, il n'y a pas eu ni communiqué du ministère de la Culture, ni de l'Élysée. On m'a dit que, aux Victoires de la Musique, où en général on énumère les grandes disparitions de l'année, Rachid n'a pas été mentionné. Je trouve ça absolument incroyable. Que dire voilà, peut-être c'est ce côté rock-punk, comme tu l'as dit, mais ça révèle aussi autre chose.
Hakim Amadouche, comment elle s'est faite cette greffe entre le rock et la musique shahabi et la musique arabe aussi, tout naturellement en fait, ça venait des origines aussi. Comment ça s'est joué?
Rachid m'a toujours dit que le fait d'écouter ce que ses parents écoutaient à la maison, donc il y avait des disques à cette époque, il y avait le tourne dans le disque et tout. Et qu'est-ce qu'ils écoutaient à cette époque, ses parents? Ben, c'était le raï, c'était la musique arabe, Oum Kulthoum, Abdelhalim Hafez, Farid Al-Atrash, tous ces stars égyptiennes des années 50, 60, 70. Et lui qui baignait aussi dans le rock de l'époque. Et donc cette fusion, c'était une urgence pour lui pour montrer ses origines ses origines, son identité, ben c'était ça, c'était cette culture de ses parents et puis l'actualité qui est la musique actuelle là où il vivait, quoi. C'était le rock, et donc, et en plus le rock qui donnait cette liberté de crier, de dire des choses, de s'exprimer. Et ben, donc il a pris comme outil tout ça, et voilà quoi. Donc, et il s'est exprimé comme ça.
Il y avait ses origines, il était l'héritier de l'Aïd Hamdani, de Oum Kalsoum, vous l'évoquiez. Il était aussi très ancré dans la France des années 80, 90, puis 2000. Et il avait cette troisième vie anglo-saxonne que vous avez déjà tous les trois évoquée, où il a côtoyé Brian Eno, Damon Albarn, de Blur et Gorillaz, Steve Hillage et tant d'autres. Stéphane Malfette, vous traduisez comment ce mélange, ce métissage musical qu'il a aussi incarné tout au long de son parcours?
C'est sa capacité, je pense, à réunir vraiment des figures musicales très très différentes autour de lui, à embarquer tout le monde. C'est vrai que quand on connaît un personnage comme Brian Eno, on l'imagine pas forcément tenir les synthés derrière dans le groupe de Rachita, mais il avait cette capacité comme ça à embarquer des personnalités très différentes, et puis aussi à embarquer toute une génération. Hein. Ça a vraiment été le porte-parole, mais sans que lui le revendique ou le veuille vraiment. De toute cette génération qui en avait d'origine maghrébine, comme on dit, et qui en avait ras-le-bol d'être assigné comme ça, les jeunes de banlieue. Il a participé à la marche de 83, il a donné un concert d'ailleurs à l'arrivée de la marche. Et il a eu ce côté militant, mais toujours sans trop être catalogué ou sans trop devenir instrumentalisé. Il s'est toujours refusé à ça. Et c'est vrai que c'est très juste ce que dit Rodolphe, et c'est malheureusement révélateur de la façon dont on considère notre patrimoine national. Hein. Il fallait lire le Guardian ou le New York Times pour lire des papiers vraiment très à propos et révélateurs de son talent. Voilà, et malheureusement, il y en avait moins en français.
Alors juste pour rappeler ce patrimoine qu'il nous laisse aussi, il y avait d'abord ce qu'il faisait au son, ce crédit moderne, comme il disait, avec cette énergie extrêmement particulière qu'il mettait à la fois sur scène et dans ses musiques. Et puis il y avait aussi ce qu'il faisait à la langue. Et là, je me tourne vers vous, à la fois Stéphane Malfette, qui est l'auteur des mots d'histoire tordu, et ça, la langue, il la pratiquait, il la malaxait dans tous les sens. Et vers vous, Rodolphe Burger, il avait inventé une langue à l'image de ce métissage musical. Comme les anciens, il maghrébisait le français, il mélangeait les mots. Et on va écouter un extrait de votre arabe cédère.
Il n'existe pas d'infinitif en arabe. Alors pour nommer un verbe, on le présente au passé. La conjugaison arabe comporte deux aspects principaux. L'inaccompli et l'accompli. Le verbe d'existence est un exposant temporel qui fonctionne comme l'auxiliaire être. Par exemple,
les enfants étaient dans la rue.
L'inaccompli, apocopé, sert à la négation du passé. Alors pour nommer un verbe, on le présente au passé.
Ya Saïdi, alam l'arbiya, ya habibi.
Le verbe d'existence est un exposant temporel qui fonctionne comme auxiliaire être. Par exemple, les enfants étaient dans la rue.
Même l'Orient, c'est Saïdi. Les enfants étaient dans la rue. Teratim, Arbaïm.
Comment est né ce projet, Rodolphe Burger? De cet arabécédaire.
L'arabécédaire, c'est un SMS de Rachid d'abord à 4h du matin, c'était l'heure des SMS. il faut que tu chantes une chanson en arabe. C'était au moment où je préparais mon album solo qui s'appelait No Sport. Je dis bien sûr, mais alors il faut que tu viennes me donner la leçon. Donc on s'est retrouvés en studio Et comme en fait l'arabe comme, qui pratiquait, qui parlait, c'est un arabe oral très distordu, c'est ça. Il est venu avec une espèce de manuel d'apprentissage de l'arabe pour les nuls, tu sais. Et ça s'est inversé. En fait, c'est moi qui lis simplement les règles. Je découvre d'ailleurs en même temps ces règles incroyables. Il n'existe pas d'infinitif, etc. Et il y avait un exemple à un moment donné, comme dans toute leçon de grammaire. Et l'exemple, c'était les enfants étaient dans la rue. Et tout d'un coup, qui prend une sorte de résonance quand on en fait un refrain. Et on a fait ça ouais, ensemble sur une musique que j'avais enregistrée au préalable et que je lui destinais.
Stéphane Molfette, c'était toujours très ludique aussi la manière d'aborder le langage, de jouer avec, où il y avait aussi un aspect manifeste, presque militant, dans le fait de se faire rejoindre ces langues sur ces musiques.
Bah, certainement les deux. C'est vrai que c'est très beau ce que raconte Rodolphe Burger, qui a mis en musique des grands poètes, qui a collaboré avec des auteurs contemporains comme Olivier Cadiot, et de retrouver ce même terrain de jeu avec quelqu'un comme Rachita, qui va effectivement détourner la langue, télescoper les mots, créer des univers comme ça. En fait, il s'inscrit vraiment dans une tradition très littéraire finalement, et qu'on aime beaucoup dans la chanson. Lui-même a des panthéons assez surprenants. Jean Sablon, hein, bah, voilà, Jean Sablon, il adorait Jean Sablon, qu'il considérait comme le plus grand crooner, même avant Sinatra, ou alors Arletty, dont il aimait beaucoup la gouaille, et voilà, alors ça paraît surprenant, mais en fait ça composait...
Il y avait aussi Édouard Glissant dans sa bibliothèque, Frantz Fanon, Derrida, Rodolphe Burger, Mohamed Choukri, Jean Genet, qu'il évoquait en introduction...
Ouais. Mais aussi Jean Sablon et Arletty.
Et Joe Dassin.
J'en reviens juste quand même sur la musique avec vous aussi, Hakim Amadouche, parce que ce mélange-là aussi, il se faisait. Et vous l'avez incarné avec votre instrument, le mandol, utilisé surtout en musique Chaabi et Kabyle. Vous avez participé à cette fusion. C'est un instrument qui vous suivait dans toutes vos expérimentations, à tous les deux, avec Rachita, qui imprimait vraiment sa couleur musicale sur les titres que vous jouiez et produisiez.
Effectivement, oui. En fait, lui, il cherchait quelqu'un qui joue du luth, du oud, mais moi, je joue de la mandole. C'est un peu plus, c'est moins noble que le luth. Le luth, c'est vraiment noble. C'est un instrument de concert. On peut le jouer soliste, solo, faire un concert, un spectacle que le luth. Et là, alors que le mandol, c'est plus populaire, c'est plus blues, c'est plus rock, quoi. Et donc, il était là, il s'est dit, bon, ben, il a vu comment je jouais, tout ça, il a dit, ben, écoute, d'accord. Et donc, il m'a dit, j'oublie le côté luth, et bienvenue pour le côté Chaabi. Voilà. Donc, c'est commencé comme ça.
Et la fusion était faite.
France
Culture, midi 20, avec nos invités, les musiciens Rodolphe Burger et Hakim Amadouche, et Stéphane Molfette, responsable de la programmation culturelle du Palais de la Porte Dorée. Ce que Rachita a fait au rail et ce qu'il a fait au rock, on en parle jusqu'à midi et demi.
France Culture, la grande table. Olivia Jesbert.
Un rocker citoyen, militant et engagé, vous l'évoquiez, de Zoubida chanté en arabe pour dénoncer les mariages forcés à Douce France, reprise encouragée par Charles Trenet lui-même, dont Taha disait qu'il était d'ailleurs peut-être un des plus grands chanteurs punk de France, Charles Trenet.
Douce France, cher pays de mon enfance, vous connaissez la fameuse chanson de Trenet remise au goût du jour par les beurs pour protester contre le code de la nationalité. Les immigrés de la deuxième génération qui, sous la houlette de l'ancien ministre de la Culture, Jacques Lang, et de Charles Trenet, ont décidé de reprendre à leur compte ce succès des années 50. Hier, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, Annette Ardisson a rencontré Charles Trenet et Jacques Lang, venus sur place, eux aussi, dénoncer la loi Chalandon.
C'est une initiative du groupe de chanteurs beurre lyonnais Quart de Séjour, qui est un des plus fameux groupes de jeunes d'origine beurre en France, qui s'est proposé à l'occasion de la discussion du code de nationalité d'éditer un disque à 50 000 exemplaires, s'inspirant de la chanson de notre ami Charles Trenet, Douce France, Et Charles Trenet, aujourd'hui, avec moi et à la demande de ce groupe, est venu distribuer ce disque aux députés pour leur dire, messieurs les députés, au moment où vous examinez ce texte, pensez à ce qu'a toujours été la France, c'est-à-dire un pays généreux, ouvert et accueillant.
Ce n'est pas une nouvelle version, c'est ma chanson. Ils ont un peu changé la musique du couplet, voilà.
C'est... Nous, c'est France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance.
Là, on peut reprendre en chœur, les micros sont ouverts.
Oui, ouais, c'est magnifique, cet art du détournement.
Douce France. En quoi c'est un détournement?
Ben, c'est un retournement, enfin je sais pas, ou non, peut-être ça remet juste les choses à leur place, mais cette façon de... Ça, peut-être on avait ce goût commun, et dans le couscous-clan, il y a beaucoup ça. On reprend le Tekewokonowalsan, mais en arabe. Je chante en alsacien sur Abdelkader.
Mais quoi, Stéphane Malfatti, il faut raconter quand même dans quel contexte elle est aussi reprise, cette chanson.
Oui, et puis je pense que c'est aussi dans un moment musical et politique. Hein. C'est vrai que ça me fait penser à une autre section de l'exposition où on s'intéresse à la Marseillaise de Gainsbourg. Donc là, complètement différente, enregistrée à Kingston, mais où la puissance politique du reggae vient chahuter l'hymne national. Là, c'est vrai que ça paraît assez soft comme ça, mais c'est d'une profonde ironie, hein, puisque cette douce France, c'est vraiment, elle est pas douce dans son accueil, dans sa façon de pouvoir être bienveillante avec tout le monde, et notamment à l'encontre de certains grands principes d'égalité, de liberté, de fraternité. Donc c'est ce que a voulu rappeler aussi toute cette jeunesse de France dans les années 80. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant pour nous la façon dont la musique, ces musiques, permettent de faire le récit de ces années politiques.
Ouais. Et en 86, on disait encore beurre. Ça nous fait un peu bizarre à l'oreille d'entendre Jack Lang prononcer ce mot-là, comme quoi le langage aussi évolue et s'adapte à l'époque. La place des enfants d'immigrés maghrébins, deuxième génération, était très présente, des chansons dans son action aussi, avec Rock Against Perfit, par exemple, ou la marche des beurs que vous évoquiez tout à l'heure, Stéphane Malfait, ou encore avec l'ouverture d'une boîte de nuit au refoulé, c'était quand même un nom, il fallait l'inventer dans
le Berger. Quelle trouvaille, non, voilà. C'était extraordinaire. Une trouvaille de Rachid.
Ouais, vous pouvez entrer ceux qui ne pouvaient pas entrer, qui se faisaient refouler ailleurs. Son rapport à la France, est-ce que vous diriez ambivalent? Je vous propose qu'on l'écoute d'abord à propos de la nationalité française qu'il n'avait pas demandé.
C'est marrant, dans la famille, c'est moi qui garde le plus. Peut-être que je suis un peu le sacrifié. C'est pour ça que j'ai jamais demandé la nationalité française. C'est un peu con, hein, comme j'ai refusé la Légion d'honneur aussi. Hein, j'ai dit, excusez-moi, un artiste brille par lui-même. Il n'a pas besoin de médaille. Et j'ai un souvenir d'une torture de mon oncle. Mes parents, ils l'ont cherché, etc. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont pris son frère, ils l'ont torturé. Et puis ils l'ont jeté au-dessus du village, de l'hélicoptère, et mort. Alors, j'ai cette image-là. J'ai cette
en souvenir,
image,
en mémoire de votre oncle, que vous n'avez jamais demandé la nationalité française.
Oui. Puis je me dis, bon, si même il me la donne, sinon je ne vais pas les courir après. Tu t'imagines, j'ai fait tellement fait de queue pour les préfectures, tu te souviens? Pour la carte de résidence ou la carte de séjour. On se levait à minuit, on faisait la queue. Comme, non, mais sans déconner. Et là rien n'a changé. Regarde ce qu'il y a, ça s'engraite là. Qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà, c'était son choix qui a pas, parfois été mal perçu, mais à la question posée par le titre de l'album « T'es qui toi », il avait finalement une réponse qui était qu'il ne voulait pas d'identité figée à Hakim Amadouche. Hein.
Ben, Moi, il y a des choses qui me restent. Enfin, il y en a tellement, mais une chose qui reste, c'est Algérien a déclaré. Et à chaque fois qu'il
j'ai rien à dire.
Il Algérien dit ça, et j'ai Algérien à dire. Voilà, c'est son rapport avec la France, il est pas ambigu, il est pas, il est ce qu'il est. Il adore la culture française, il adore l'Algérie, mais il est tellement malade quand il voit ce qui se passe, et en France, alors là c'est pareil. Donc il avait les deux blessures comme ça qui s'affrontaient, et l'amour qui était là, qui enveloppait tout ça, voilà.
Très fier, Rachid Tat, ce qui se joue aujourd'hui dans les rues algériennes, de cette effervescence citoyenne et culturelle.
Ouais. Ah, là, c'est dommage qu'il voit pas. Là, carrément, je le vois dedans, quoi. Je le vois en train de jubiler, enfin, voilà, d'être au centre de tout ça, quoi.
Et il chanterait quoi, dans les rues ?
L'amour. L'amour. Pas du... voilà. Comme je le connais, c'est sûr qu'il va chanter une chanson d'amour, quoi. très très douce.
Il n'aurait pas chanté Écoute-moi camarade.
Écoute-moi camarade, ah non, parce que ça c'est pour la France, ça.
Ça c'était dans les rues françaises.
Oui.
On en met un extrait.
Écoute-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme.
Bon, il est aussi question d'amour, hein, quand même, Hakim Amadouche.
Ah oui, mais c'est l'amour, c'est la France, la fille, c'est la France.
Un peu contrarié.
Ouais.
Rodolphe Burger, il paraît qu'il y avait un album qui était presque fini et qui s'intitulait Je suis africain de Rachita.
Oui,
encore une identité.
Qui va sortir, oui, ouais,
et qui va sortir. Il était terminé cet album ?
Oui, je crois. Oui.
Le clip, il va sortir dans un mois. Sur le titre, je suis africain.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Stéphane Malfait. Je rappelle donc que l'exposition Paris-Londres, musique, migration est à voir en ce moment au Palais de la Porte Dorée jusqu'à début janvier l'année prochaine. Merci mille fois, Rodolphe Burger. On vous retrouvera avec l'ensemble du Couscous Clan en concert pour cet hommage à Rachid Tat samedi, le 23, dans le cadre du festival Banlieue Bleue. Ce sera à Aubervilliers. Et vous y serez aussi, Hakim Amadouche. Merci à tous les trois.
Merci à vous.
Juste pour préciser que le festival Banlieue Bleue s'ouvrira vendredi avec un groupe mythique des années 60, The Last Poets. Et ce sera à voir à Saint-Ouen-sur-Seine, à l'espace 1789, dès 20h30. Merci.